Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout.
Mais jamais rien.
Salut les timbrés, aujourd'hui dans le timbre du coin sur Timbre FM sur le 106.6 MHz. Eh bien, j'ai la joie de recevoir au micro dans le studio Jérôme Nedelec, bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Guillemot. Sophie, toi tu es responsable du secteur culturel à l'OBC.
C'est ça, de l'Oustabrosan de Communauté.
Voilà, et Jérôme Nedelec, tu as plusieurs cordes à ton arc, hein, puisque tu es à la fois instrumentiste, producteur, disquaire, enfin en tout cas tu l'as été.
Ouais.
Et puis professeur de guitare aussi, mais aujourd'hui on te reçoit parce que tu es aussi auteur.
Tout à fait.
Et ça va être l'objet de notre discussion, puisque l'OBC a mis en place, en partenariat avec les médiathèques, hein, qui sont chapeautées justement par l'Oustabrosan de Communauté, une résidence d'auteur. Et l'auteur, c'est toi. Alors, tu viens de sortir un livre aujourd'hui même. Donc, en plus, on a une exclusivité. C'est ton deuxième tome de L'Armée des Veilleurs. Donc, c'est une trilogie, en fait... historico-fantastique, c'est ça ?
Ouais, on peut la qualifier de ce genre littéraire-là, même si on est avant tout en fait sur des romans historiques, hein, du roman historique qui se passe au 9e siècle en Bretagne, à l'époque des invasions vikings,
ouais.
À l'époque où la Bretagne était un royaume avec des rois, et donc il y avait une matière romanesque assez intéressante que je suis en train d'exploiter en effet dans cette trilogie L'Armée des Veilleurs.
Et là, le tome 2 sort aujourd'hui.
Aujourd'hui même, oui.
Donc, avec l'éditeur Trinox, hein, donc un éditeur du coin.
De Questembert.
De Questembert.
Précisément.
Et qui sera distribué également par Cobbrace, donc un distributeur régional aussi. Quoi.
Tout à fait, ouais, sur le Grand Ouest. Ouais.
Et donc, c'est le tome 2 qui s'intitule Les forêts combattantes. Le premier tome est sorti en 2018, je crois.
Fin 2017.
Fin 2017, pardon.
Les frontières liquides.
Les frontières liquides. Justement, ça parle de quoi ?
Eh ben, comme je disais, donc, ça parle de vikings, ça parle de bretons, tout ça, dans la Bretagne du Haut Moyen-Âge. En fait, je suis parti d'événements historiques, parce que ce qui m'intéressait, en fait, c'était de partir de ce fonds historique assez riche, en fait, que comporte la Bretagne, surtout la Bretagne du Haut Moyen-Âge, qui est assez méconnue, surtout, en fait, l'aspect des invasions vikings qu'on prête toujours à la Normandie ou à des endroits ailleurs en France. Là, de rappeler que les vikings sont venus, en effet, en nombre en Bretagne, et qu'ils ont modifié pas mal l'aspect politique de cette période, et de les remettre dans un contexte narratif, un peu de roman d'aventure. Voilà, c'était ça que j'avais envie de mettre en place. Alors, le côté fantastique, il existe aussi parce que on est au Moyen-Âge et que de toute façon le fantastique fait partie du quotidien de toute façon des gens, où on est dans des périodes un petit peu sombres, enfin qu'on l'on pense sombres d'aujourd'hui, mais qui sont beaucoup plus riches que ce que l'on ne pense. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect un peu mystérieux en fait, que sur lequel j'essaye d'appuyer, et qui fonctionne assez bien avec le genre littéraire.
Notamment en Bretagne, avec Brocéliande par exemple, où se situe un petit peu l'action de ton histoire.
Ouais, tout à fait, même si j'avais à cœur en fait de reparler de Brocéliande sans pour autant démontrer qu'il y avait une vie, que Brocéliande avait une vie sans le mythe arthurien.
Ouais, ouais.
Voilà, c'était de remettre un peu ces zones mystérieuses au sein même, dans un autre contexte, et ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ouais.
Alors ce livre, on peut se le procurer où pour le coup ?
Eh ben n'importe où. Voilà, partout où des livres se vendent, donc que ce soit dans des librairies, bien évidemment, il faut acheter ses livres dans les librairies, c'est mieux. Mais ça se trouve aussi sur Internet, ça se trouve un peu partout, et en tout cas c'est distribué sur toute la Bretagne. Ouais.
Et on les retrouvera notamment sûrement dans les médiathèques aussi, hein, du coin. Sophie, justement, les médiathèques, toi tu es en lien avec elles, hein, au quotidien ?
Oui, c'est ça, du réseau des médiathèques communautaires. Donc là, les médiathèques qui sont partenaires de la résidence d'auteur de Jérôme Nedelec, c'est les médiathèques de la Gassie,
ouais.
La Chapelle Gasseline, Carantoire et Tréal. Justement, vous demandiez où est-ce qu'on va pouvoir trouver le livre. Il me semble que lors de l'inauguration de la résidence d'auteur, qui va avoir lieu vendredi soir,
vendredi 20 septembre
à 19h, Jérôme sera accompagné de son éditeur et devrait avoir quelques ouvrages à vendre.
Et on pourra aussi te retrouver le vendredi 18 octobre pour une séance de dédicace de 18h à 19h à Carantoire.
À la médiathèque de Carantoire.
Oui, voilà. Tout à fait, pour un café littéraire, autour d'un café littéraire. Le café littéraire, ça consiste en fait à une discussion autour des genres littéraires, autour des livres. En fait, voilà, c'est des discussions assez vastes ou assez précises. En l'occurrence, là, ce sera à Carantoire, ce sera sur les littératures populaires et de l'imaginaire. Donc tous les genres, polar, thriller, mais aussi fantastique, science-fiction, fantasy, etc. Donc tout c'est ce qu'on appelle un peu les mauvais genres.
Mauvais genre ?
C'est une expression qui est né un peu en réaction en fait à des genres, sur un genre littéraire qu'on qualifie un peu de mineur en fait. Mais quelqu'un disait qu'il n'y avait pas de mauvais genre, il y avait que des mauvais livres. Donc il y a en fait là-dedans tous les grands succès littéraires de Harry Potter au Seigneur des Anneaux qui sont dans ces genres littéraires justement là aujourd'hui et qui ont amené beaucoup de gens à la littérature aussi.
On le disait tout de suite, il y aura donc des cafés littéraires d'organiser dans le cadre de cette résidence d'auteur, mais il n'y aura pas que ça.
Le premier café littéraire qui est précédé d'une rencontre dédicace avec Jérôme Nédélec est le vendredi 18 octobre à la médiathèque de Carantoire. Et le deuxième café littéraire précédé d'une rencontre dédicace sera organisé à la médiathèque de la Gacille le mardi 5 novembre.
Le mardi 5 novembre, ouais, ok.
Il y a beaucoup d'informations, c'est complexe, faut s'y retrouver dans les plannings.
Et oui, je reste 2 mois en résidence, il y avait de quoi faire.
Donc cette résidence, elle débutera donc, comme on l'a dit, le vendredi 20 septembre à Tréal, mais elle sera aussi précédée d'une projection de film, du film Le 13e guerrier, donc qui parle de Vikings aussi. Alors c'était un choix de ta part ou c'était un choix de l'équipe ?
Alors c'est un choix concerté, on va dire, parce qu'en fait la médiathèque de Tréal m'avait demandé en fait quelques titres qui étaient possibles en fait d'avoir. C'est pas toujours possible en fait pour les médiathèques d'avoir tous les titres, non. Donc en fait il y a des choix qui sont à faire. Et en l'occurrence, les choix de films de Vikings, c'est assez vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est extraordinaire. Alors il y a quelques titres comme ça qui retiennent l'attention et sur lesquels on est capable de travailler, de dire quelque chose. Le 13e guerrier est intéressant parce que c'est un film très populaire, c'est un film de McTiernan, celui qui a fait Predator, etc. Oui. Donc c'est un film que beaucoup de gens ont vu et qui part par contre d'une source historique extrêmement fiable, qui est une personne d'origine de Bagdad qui va retranscrire par écrit en fait, qui est contemporain en fait aux Vikings qui sont présents en Russie. Et donc, par contre, après, il y a une écriture un peu fantastique justement. Il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de clichés en fait à démonter. Et c'était ça qui m'intéressait aussi. Alors le problème avec les Vikings, c'est qu'on part toujours de clichés et qu'il y a un gros travail de déconstruction, de débunkage comme on dit aujourd'hui, qui est à faire sur cette civilisation.
Oui, notamment, je crois que les casques Vikings n'avaient pas de cornes, par exemple.
Ça c'est un des clichés en effet maintenant qui est battu en brèche. Maintenant il y a plus grand monde beaucoup de gens sont informés de cette chose là, mais il y a encore pas mal de choses qui sont tenaces encore dans la tête des gens. Ouais.
Alors d'où te vient cette passion des Vikings justement ?
Si
on peut parler de passion.
Ouais, mais tu parlais tout à l'heure d'un parcours professionnel un peu d'aucun dirait chaotique, mais ou en tout cas voyageur. Moi j'ai commencé avant d'être faire de la musique, j'ai commencé ma carrière professionnelle en fait en travaillant pour le service régional d'archéologie de Bretagne. J'ai fait pas mal de fouilles archéologiques en fait, qui est passionné d'histoire et d'archéo depuis que je suis gamin, et j'ai eu la chance en effet de travailler sur des chantiers de fouilles, de développer en fait cet aspect professionnel, et c'est le haut Moyen-Âge breton qui m'a toujours intéressé, parce qu'on parlait du mythe arthurien, ça en fait partie, c'est dans cette période-là. De la période du royaume breton, enfin toutes ces choses-là m'ont très vite passionné, et les vikings sont partie prenante en fait de cette période, et c'est un des aspects qui est peut-être en effet le plus le plus populaire, le plus il y a un aspect assez haut en couleur en fait dans tout cet esprit des invasions scandinaves, et donc depuis je travaille dessus, en me renseignant sur des livres, des films, etc. Et c'est ce mix entre culture historique, archéologique très précise et culture populaire m'intéressait en fait à retranscrire tout ça. Mais moi je travaille essentiellement comme travaille un historien à la base, sur des faits archéologiques et historiques tangibles.
Et c'est extrêmement documenté.
C'est le but du jeu. Faut dire que de par mon parcours et de par pas mal de contacts que j'ai encore avec des archéologues, j'avais pas intérêt à faire n'importe quoi.
Mais ça reste un roman de fiction.
Les connaissances qu'on a de cette période, elles tiennent sur quelques feuillets, en fait. Hein. Donc on est obligé, en effet, de tout inventer, presque, puisque là, on n'a pas de retranscription littéraire très précise sur cette période. Donc même si on n'a que quelques personnages, quelques éléments, etc. Donc tout le reste ne peut être, en effet, que romancé. Par contre, les trouvailles, l'apport des vêtements, la façon de se battre, de l'armement, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont assez documentées par l'archéologie.
D'accord. Donc tu t'es beaucoup appuyé sur ça pour pouvoir écrire tes romans ?
Essentiellement, oui. Le roman historique a pour moi cet intérêt, en fait, de faire découvrir une période par le biais, justement, de quelque chose d'assez ludique. Voilà.
D'histoire.
Hein. Oui, mais c'est des petites histoires. L'histoire avec un grand H qui rencontre l'histoire avec un petit H. Mmh. Et c'est ce mix-là qui m'intéresse. Ouais.
Alors, cette résidence d'auteur, là, mise en place, on le rappelle, en partenariat avec les médiathèques de Loustabrosilande Communauté, on l'a dit, il y aura une première session donc le 20 septembre avec la projection de ce film Le 13e guerrier à Tréal. Le 18 octobre, donc le vendredi, il y aura donc cette rencontre avec dédicace et le fameux café littéraire dont on a parlé. Il y aura une seconde session comme ça le mardi 5 novembre à la médiathèque de l'Agacilly. Et puis, c'est pas tout, puisque durant cette résidence d'auteur, tu vas aussi intervenir avec des scolaires.
Oui, à l'école Jacques Prévert de l'Agacilly, avec les CM2, et ce sera une intervention qui aura lieu tous les jeudis, en fait, avec lesquels je vais échanger avec les élèves et probablement construire aussi quelque chose avec eux. Alors, je ne sais pas exactement quoi, même si l'idée est assez bien avancée avec l'institutrice, mais c'est l'idée aussi, c'est de savoir ce qu'ils vont réussir, eux, à sortir de cette matière-là. Donc, c'est de travailler sur les Vikings, travailler sur le Haut Moyen-Âge breton, travailler sur les paroles de Vikings, parce que c'est un peu le titre qu'on a donné en fait à ce travail, qui sera aussi basé sur l'étymologie, c'est-à-dire aussi les noms qu'on a gardés dans la langue française et qui viennent de Scandinavie en fait et qui ont été apportés par les Scandinaves au Moyen-Âge. Donc on va faire des quiz, on va travailler en fait sur cette matière sur le plan historique, mais aussi sur le plan littéraire. Il y a une sortie qui va avoir lieu à Monteneuf sur laquelle je vais les faire travailler un petit peu aussi sur les écrits. Voilà, ça va être multiple, c'est l'occasion pour eux de rencontrer en fait un auteur, un écrivain, quelqu'un qui ne fait pas partie de l'école. C'est une occasion aussi pour avoir un échange un peu privilégié et redonner un peu de boost un peu dans ce début d'année à leur travail au quotidien. Quoi. Ce sera régulier sur les 2 mois.
Donc voilà, pendant 2 mois, tu vas alterner entre ces interventions avec les scolaires et donc les cafés littéraires. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses de prévues qui sont peut-être moins officielles aussi au cours de cette résidence d'auteur ?
Alors après, le principe de la résidence, c'est que Jérôme Nedelec va être pendant 2 mois sur le territoire.
Voilà.
L'objectif pour lui aussi est d'avoir un temps d'immersion sur un territoire à la rencontre de gens, de ses particularités, pour aussi nourrir dans son écriture. Donc il va aussi travailler un moment seul. Il y a des temps de rencontre, effectivement, comme on a dit, dans les médiathèques, les temps avec l'école. Je précise juste par rapport à l'école que c'est subventionné et accompagné par l'éducation nationale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est construit avec eux. Après, je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de la résidence, les rencontres feront que Jérôme sera peut-être par moment dans les médiathèques à travailler. Il pourra peut-être rencontrer du public à ce moment-là ou autre.
Voilà, il y a une part formelle et une part informelle. Voilà, c'est aussi le but. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien partir à la rencontre des gens aussi. Et c'est un peu le but de la résidence. Mais en effet, une grosse partie de cette résidence, elle est consacrée à un temps d'écriture. Ça, c'est une chance en fait pour les auteurs d'avoir ce genre de possibilité de pouvoir sortir de leur contexte personnel, familial, etc., et de se mettre un peu en immersion. Prends ça un peu comme un tunnel en fait dans lequel on va pouvoir faire une production écrite un petit peu plus engageante. Moi, en l'occurrence, j'ai pour but d'avancer sur le tome 3 en fait, de la trilogie. Voilà, c'est la bonne occasion maintenant que le tome 2 vient de sortir, de pouvoir travailler, de mettre en place en fait, ce qui commence déjà à se mettre en place, mais là vraiment à boucler en 2 mois déjà une trame bien solide. Donc là, oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Après, j'espère que la population locale pourra aussi s'emparer et venir à ma rencontre, c'est le but du jeu.
Alors, le tome 1 de L'Armée des Veilleurs, qui est sorti en 2017, il vient juste d'être suivi, on l'a dit, par le tome 2 qui vient juste de sortir aujourd'hui, donc Les Forêts Combattantes. Combien de temps t'as mis à écrire ces deux premiers tomes? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, hein, quand on achète des bouquins, du temps que ça peut prendre et de l'énergie aussi.
Alors, c'est certainement une des questions qu'on me pose le plus souvent. C'est aussi une des questions à laquelle j'ai vraiment des difficultés à répondre, parce qu'un temps d'écriture, c'est jamais un temps où on démarre à 9h du matin et on finit, c'est pas du 35h semaine, c'est des choses qui sont assez... Et puis, je dirais que, en fait, c'est le fruit déjà d'années de boulot, parce que déjà, pour avoir travaillé sur cette matière-là, il a fallu déjà bien connaître les périodes historiques sur lesquelles j'étais amené à écrire. Ensuite, l'écriture en elle-même, c'est aussi différent entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, j'apprenais mon nouveau métier d'écrivain. Ouais. C'était mon premier livre.
Même si on le rappelle, il y a déjà eu des choses de sortie, hein, de ta part, et notamment des recueils de
nouvelles. C'était des nouvelles dans des recueils de nouvelles, mais moi, j'ai pas fait les choses comme tout le monde. J'ai écrit le livre d'abord. C'est la première chose que j'ai fait dans ma vie d'écrivain. J'avais jamais écrit avant. Okay. J'ai commencé à écrire après 40 ans. Il y a des gens qui écrivent depuis qu'ils sont gamins. Moi, j'avais pas cette. Je faisais de la guitare. C'était autre chose, mais c'était. En fait, moi, pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est une mode d'expression artistique
et de création.
De création. Mmh. Voilà. Et donc j'ai commencé à écrire le livre. Et une fois que j'ai fini d'écrire le livre, donc ça a mis à peu près, on va dire, une petite année. Et j'ai commencé à faire des concours de nouvelles pour savoir si ma qualité d'écriture était à la hauteur de mes ambitions. Voilà, j'ai participé à plusieurs concours de nouvelles, à 5 pour être précis. J'en ai gagné 4 sur les 5. Et okay. Du coup, je me suis dit que c'était le moment de retravailler mon livre. Donc le livre avait été écrit en une petite année, mais il est reparti sur l'établi, parce qu'en fait, c'est jamais complètement terminé. Avec Les Forêts combattantes, le deuxième, j'ai mis un peu moins de temps. Mais parce que j'avais déjà pratiqué, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Le Trésor des Hommes du Nord, qui est un petit bouquin qui est toujours un petit peu dans cet univers-là, qui est paru entre-temps, qui parle de Redon, toujours à la même période, au milieu du 9e siècle. Voilà, là je maîtrise un petit peu mieux mon outil d'écriture, mais il faut compter une bonne année de boulot pour un bouquin comme celui-ci qui fait presque 500 pages. Ouais.
Ok, donc là t'es reparti pour un an.
Alors ouais, je suis reparti pour un an. La fleur au fusil, c'est peut-être que ça mettra plus de temps que ça, peut-être moins. Non, je pense pas. C'est un gros travail, mais là encore, la résidence va me permettre de gagner du temps. Voilà, parce que là, je suis vraiment en situation où j'ai pas d'autre chose à gérer, où ça va être intense. Et voilà, j'ai une vie familiale par ailleurs, et c'est vrai que ces petits moments de tunnel. Ça apporte pas mal d'avancer plus vite, en tout cas, du moins j'espère.
Alors Sophie, justement, une résidence d'auteur comme celle-ci, vous en aviez déjà mis en place
Alors De Loustabrosséan de Communauté au sein du réseau des médiathèques n'avait jamais fait de résidence d'auteur. Ce qui a son penchant, on va dire, du côté art plastique, c'est les résidences d'artistes qui avaient déjà pu être menées au niveau de la passerelle à l'Agassi. Mais résidence d'auteur, c'est la première. Donc une nouveauté pour les collègues et toujours une expérience riche d'enseignement.
Voilà. On le rappelle aussi, cette résidence d'auteur, elle fait partie de la saison culturelle proposée par le Loustabrosséan de Communauté. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, justement, de cette saison culturelle? Il y a énormément de choses.
Je ne vais pas vous détailler toutes les pages.
Mais justement, où est-ce qu'on peut retrouver les informations
Oui, en ce début d'année scolaire, du coup, traditionnellement début septembre, on sort un petit catalogue qui reprend l'ensemble des animations proposées au cours de l'année, donc de septembre 2019 à juin 2020, par les services communautaires. Donc vous avez un petit catalogue culturel qui est sorti, que vous allez pouvoir retrouver dans vos mairies, offices de tourisme, médiathèques, en tout cas dans tous les services communautaires également. Vous retrouverez dans ce catalogue le programme d'exposition du Centre culturel Le Belvédère à Guerre, mais également de la passerelle à l'Agassi. Mmh. Vous retrouverez tout le programme d'animation du réseau des médiathèques communautaires, cette année sur la thématique de l'eau, comme les expositions dont j'ai parlé avant, plus d'autres petites choses, et notamment on a intégré cette année des actions de médiathèques communales qui voulaient se lier à notre programme.
Parce que quoi qu'il en soit, si vous voulez retrouver toutes ces infos, et notamment celles qui concernent la résidence d'auteur hein, de Jérôme Nedelec qui est avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à taper www.oust-brocéliande.bzh hein, et vous aurez toutes les informations. Il y a aussi les pages Facebook des médiathèques de l'Oust à Brocéliande.
C'est ça, médiathèque OBC.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas aussi. Je ne sais pas si tu as un site internet, toi.
En fait, c'est plus que c'est un site internet, mais c'est vrai qu'il y a un projet aussi tout autour de mes écrits. Je travaille en fait sur quelque chose qu'on appelle transmédia, c'est-à-dire qui va un petit peu aller plus loin qu'en fait que l'objet livre, et donc on retrouve ça sur l'armedesveilleurs.com tout simplement.
Okay.
Et donc sur lequel on peut voir, voilà, j'ai tourné un clip avec l'école de cinéma de Rennes et des gens qui font de la reconstitution historique, etc. Parce que c'est un peu aussi le projet du bouquin, c'est de travailler aussi avec des gens qui bossent dans ce domaine, et notamment ouais, des reconstituteurs qui font des troupes qui se costumes en viking et qui vont qui font des fêtes médiévales, etc. Et c'est cet aspect-là que j'essaye aussi de mettre en lumière.
Tu viens de parler d'un clip, est-ce que c'est une mise en musique aussi de ta part ?
Oui, il y a de la musique qu'on a composée avec des collègues, etc. Oui, c'est un peu l'idée en fait de créer une synergie culturelle, de création autour de ça.
Autour de ça, ouais.
Même si voilà, le temps me manque pour tout faire, mais c'est l'idée.
Donc, on le rappelle, hein, pour résumer un petit peu, cette résidence d'auteur donc avec Jérôme Nedelec se déroulera donc à partir du 20 septembre, hein, vendredi prochain. Donc, si vous entendez l'émission plus tard, c'est que c'est une rediffusion, mais il y a aussi d'autres choses, à savoir les cafés culturels, donc le vendredi 18 octobre et le mardi 5 novembre, respectivement. Le premier café culturel, ce sera à la médiathèque de Carantoire, et le second café culturel, ce sera donc le 5 novembre à la médiathèque de La Gacilly. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous procurer donc l'Armée des Veilleurs, hein, donc la trilogie. Deux tomes sont disponibles, le deuxième vient tout juste de sortir aujourd'hui, donc Les Forêts Combattantes, chez Trinox hein, en édition, et chez Cobraise en distribution. Voilà, un grand merci Jérôme, un grand merci Sophie d'être venue nous voir à Timbre FM.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Le Timbre du Coin,
l'émission prête à poster.
On y poste presque tout,
mais jamais rien.